l'Association humaniste du Québec et bienvenue au Balado humaniste. Aujourd'hui, nous allons discuter d'athéisme et plus spécifiquement d'athées québécois, parce qu'il y en a beaucoup et même de très connus. Et pour ce faire, nous avons avec nous M. Claude Brown. Diplômé des universités d'Ottawa et de la Sorbonne en psychologie et en philosophie, Claude Brown est professeur de neuropsychologie retraité de l'Université du Québec à Montréal. Il a publié 3 ouvrages en neuropsychologie ainsi que plusieurs centaines d'articles scientifiques. Il a longtemps milité dans des partis politiques de gauche, a joint le mouvement laïque québécois en 82 et a été rédacteur en chef de la revue Cité laïque. Claude Brown est membre de l'Association humaniste du Québec, où il est rédacteur en chef de la revue Québec humaniste, que je vous invite fortement à lire. Vous trouverez tous les numéros de la revue sur le site de l'OHQ, asshum.org. Il est également membre des Sceptiques du Québec ainsi que de l'Atheist International Alliance. En 2010, il a publié « Québec athée », un ouvrage discutant d'athéisme et mettant l'emphase sur des athées notoires québécois passés et présents. Cet ouvrage n'est malheureusement plus disponible en librairie, mais si vous patientez jusqu'à la fin du balado, je vous indiquerai comment l'obtenir gratuitement. Bonjour Claude et merci d'avoir accepté notre invitation.
Tout le plaisir est pour moi, cher Michel.
Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais visité le site de l'OHQ ou qui n'ont jamais pris le temps de prendre connaissance de nos principes, le premier principe de l'association humaniste est le rejet de croyances basées uniquement sur des dogmes, sur des révélations divines, ou ayant recours au surnaturel sans évidence vérifiable. Donc, cela ne surprendra personne si je vous dis que nous sommes une association qui cherche à rassembler des athées et des agnostiques. Alors, au préalable, j'aimerais savoir, Claude, à quel moment est-ce que tu t'es identifié comme un athée et quel cheminement qui t'a amené à cette conclusion?
Eh bien, il y a eu plusieurs phases dans mon cheminement jusqu'à l'athéisme. D'abord, à la puberté, j'étais un rat de bibliothèque municipale. Mes parents étaient très catholiques et m'ont poussé à être enfant de cœur. Ayant entrevu un monde riche de par mes lectures, je n'ai pas aimé d'être enfant de cœur. La sanctimonie, le rituel lourd, les propos irrationnels et déconnectés, le dogmatisme, la froideur et les attouchements. Puis, à 14 ans, je priais seul dans l'église et j'ai eu une intuition très forte de parler tout seul, de ne pas avoir d'interlocuteur. À partir de ce moment-là, aucun Dieu personnel engagé avec les humains ne pouvait avoir de tyran sur moi. Mais, encore fallait-il me faire une tête sur la notion d'âme qui m'avait été inculquée par ma culture familiale et environnante. Étant inscrit plus tard en psychologie à l'université, j'étais fasciné et confus par le problème de l'articulation du corps et de l'âme ou de l'esprit que je pensais immatériel. Et un jour, j'ai voulu en discuter avec un ami, un camarade étudiant plus âgé, qui était doctorant en neurosciences cognitives à l'époque. Et il a été très catégorique dans sa réplique. « Il n'y a que le corps, point final, mon chum », m'a-t-il dit. Et ensuite, il m'a expliqué comment tel est le cas. L'esprit n'est rien d'autre que l'activité des neurones, m'a-t-il expliqué. Et il m'a montré comment cela se manifeste dans le laboratoire. À partir de ce moment-là, alors que j'avais environ 18 ans, ni le théisme ni le déisme ne pouvaient plus avoir la moindre emprise sur moi. Finalement, en lisant sur l'histoire de l'humanité et sur la fonction sociale et psychologique des religions, et en particulier sur les guerres de religion, je me suis mis à considérer les religions comme des distorsions mentales toxiques et je n'ai jamais démordu de cette conviction.
Dans le premier chapitre de Québec athée que vous avez publié en 2010, il y a une déclaration que j'ai remarquée, que j'aimerais vous citer. « Encore aujourd'hui, 200 ans après le siècle des Lumières, l'athéisme demeure presque clandestin, partout à travers le monde. Beaucoup de gens sur cette planète ne savent pas que l'athéisme existe, ou n'ont jamais rencontré quelqu'un qui se déclare athée, ou n'ont qu'une compréhension très floue de cet honneur. Pire, les athées sont souvent craints, exécrés. C'est pourquoi beaucoup d'athées québécois hésitent à déclarer, c'est-à-dire, leur athéisme. 11 ans après l'apparition de votre livre, est-ce que vous êtes toujours de cet avis-là?
En ce qui concerne l'Europe occidentale et le Québec, un défocage culturel est en cours. C'est-à-dire que les sondages montrent en effet que ces régions du globe comportent déjà ou comporteront bientôt des majorités de citoyens qui se disent sans religion. Dans ces pays, il n'est plus choquant ni dangereux pour les gens de dire publiquement qu'ils sont athées. Au Québec, Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, a affirmé sans embâche récemment qu'elle était athée à une journaliste qui l'interviewait pour une revue commerciale. Cependant, dans le reste du monde, recouvrant environ 90% de la population mondiale, l'athéisme est toujours mal vu. En Arabie Saoudite, la mécréance est sujette à la peine de mort, comme l'est la communication avec un mécréant, selon les lois du pays. Aux États-Unis, 7 États bannissent à ce jour les athées de se présenter comme candidats à une élection. Les sondages réalisés auprès des Américains placent encore aujourd'hui les athées juste derrière les socialistes à la tête des nombreuses minorités les plus détestées.
En bref, comment est-ce qu'on peut définir un athée?
La définition la plus simple est sans Dieu ou qui ne croit pas en Dieu. Cependant, il y a toutes sortes d'athées. Charles Darwin est réputé à être devenu athée par dépit lorsque sa fille est décédée en bas âge d'une maladie. D'autres se disent athées seulement dans le sens qu'ils ne croient pas à un dieu personnel, alors qu'ils peuvent s'adonner à toutes sortes de croyances ésotériques, mystiques ou irrationnelles, comme l'astrologie par exemple. D'autres se considèrent comme des athées très croyants et passionnés. C'est mon cas. Je crois passionnément à l'inexistence d'une entité immatérielle créatrice du monde ou d'une âme immatérielle, parce que je crois avec trépidation et enthousiasme au Big Bang, qui m'en dit long sur l'évolution du cosmos, à l'évolution des espèces et aux neurosciences cognitives, qui expliquent l'âme humaine, à la biologie moléculaire, qui explique l'origine de la vie, à la physique subatomique, qui m'en dit long sur la nature de l'être. Comme disait Laplace, je n'ai pas besoin d'hypothèses farfelues.
Dans le premier chapitre de Québec athée, toujours, vous avez une section intitulée « Nous sommes tous athées ou presque ». À quoi faites-vous référence quand vous avez écrit ça?
Eh bien, c'est pas une idée ni un énoncé qui vient de moi, ça. Ça vient d'un libre-penseur américain. C'est une sorte de bravade. Bon, nous sommes tous athées ou presque, tout autant que nous sommes tous croyants ou presque, n'est-ce pas? La bravade peut très bien être mise sur sa tête. C'est amusant de se rendre compte de ça. Il y a presque autant de religions qu'il y a de grandes cultures humaines. Si vous ne croyez qu'à l'une d'entre elles et récusez toutes les autres, vous ne devriez pas être trop choqué que l'athée en récuse seulement qu'une de plus que vous. À l'inverse, la morale de l'athée relève d'histoire du papa avec son enfant. Je simplifie là, mais je ne gêne pas pour le dire comme ça. Et cette morale qui relève des histoires du papa ressemble à la morale préconisée par toutes les religions monothéistes. C'est parce qu'on a été aimé de la bonne façon qu'on développe un sentiment moral. C'est lorsqu'on est très mal aimé qu'on en développe peu ou pas, à part quelques personnes génétiquement handicapées ou quelques tempéraments particulièrement tortueux. Les croyants monothéistes ont les mêmes élans moraux que les athées, qu'ils ne font que projeter un petit peu plus loin jusqu'à un papa dans le ciel.
Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un agnostique et un athée?
Pour un athée passionné comme moi, la différence est importante. Pour d'autres, ça semble assez sans conséquence. Des agnostiques, pardon, qui vivent assis sur une clôture en affirmant qu'il y a autant de chances que Dieu existe, ou pas, en autant qu'ils sont concernés. Chacun, 50%, exactement. Il y a les agnostiques qui disent qu'ils ne peuvent pas savoir si Dieu existe et affirment même prétentieusement que personne d'autre ne peut le savoir non plus. Il y a aussi les gens qui se disent agnostiques pour provoquer le moins de gens que possible, alors qu'en réalité, ils croient fermement et secrètement à l'inexistence d'entités surnaturelles. Que voulez-vous? Il y a des petites natures qui n'aiment pas discuter. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas perdre de contrat. Pour ce qui est de l'athéisme, je reprendrai pas ma définition de l'athéisme, là, sauf pour dire que, en ce qui me concerne, l'athéisme est un accomplissement intellectuel et moral assez mineur. Tout le travail de l'esprit et du cœur reste à faire après que l'on ait fait la transition à l'athéisme. Une bonne façon de commencer ce travail est d'adhérer à une organisation comme l'Association humaniste du Québec.
En parlant du travail de l'esprit du cœur, un argument qu'on entend souvent, c'est que la moralité nous a été donnée par les religions. Vous et moi, on sait que c'est faux, mais pour ceux qui nous écoutent, vous répondez quoi à cet argument?
J'ai déjà commencé à répondre à cette question, mais c'était très simple, pour ne pas dire simpliste, et il y a beaucoup à dire sur cette question. Mais quand même, fondamentalement, la moralité n'est rien d'autre qu'un élan positif vers les autres êtres sensibles et conscients, ni plus ni moins. Les animaux en sont définitivement pourvus. La nature de la chose ne change pas de l'animal à l'humain, à part l'effloraison et le blabla. L'espèce humaine est une des plus néotènes, c'est-à-dire comportant une enfance très prolongée. Nous dépendons absolument des bons soins prolongés d'au moins un de nos parents, c'est-à-dire de son amour. Nous absorbons cet amour, nous le remettons, nous le développons et nous en parlons interminablement, souvent avec beaucoup de désaccords. Mais l'essentiel est là. C'est une émotion amicale. C'est un état d'esprit fragile qui s'envole si facilement, hélas. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus précieuse de tout l'univers.
À partir d'ici, j'aimerais qu'on discute des grands athées québécois qui sont nommés dans Québec athée. Moi, que j'ai trouvé d'une lecture vraiment fascinante. La liste est impressionnante. Je sais qu'on n'a pas le temps de tous les mentionner ici, mais si vous aviez un choix à faire, lesquels est-ce que vous recommanderiez?
Effectivement, dans mon livre Québec athée, j'ai fait le tour de mes 20 athées québécois préférés, en leur dévouant chacun ou chacune une mini-biographie et un portrait dessiné au crayon. Depuis la publication de mon livre, il y a 11 ans, j'ai découvert que beaucoup d'autres personnes que j'admirais énormément étaient ou sont athées. C'est pas étranger au fait que le tabou de l'athéisme est maintenant en voie de disparition au Québec. Mais pour les fins de ce balado, qui vise à stimuler et séduire notre auditoire dans le sens humaniste, je mentionnerai quelques noms de personnes dont on peut lire les textes pour son plus grand plaisir et pour son édification. Commençons avec un des personnages qui peut être considéré comme un grand précurseur de l'athéisme qui se tient debout et qui se respecte lui-même et qui s'affirme au Québec. Et il s'agit de Joseph Doutre. Joseph Doutre a dirigé au milieu du 19e siècle l'Institut canadien, cette première université populaire, gratuite, résolument laïque, ouverte aux œuvres de la Renaissance, des Lumières, de la science et de la libre pensée, dont beaucoup d'œuvres étaient à l'index de l'Église catholique. J'ajouterais que cet institut canadien a été vilipendé par l'Église catholique, qui a d'ailleurs fini par réussir à le détruire. Doutre était un avocat qui défendait la veuve et l'orphelin, sa vie durant. Il a une autre plume humaniste dans son chapeau. Il est l'auteur du premier roman en langue française publié. Le premier roman publié en langue française au Québec. Et les beaux-arts de ce type, c'est quelque chose qui est fortement apprécié par les humanistes. C'est même mentionné dans les principes de l'Association humaniste du Québec. Donc, Joseph Doutre, c'était un humaniste avant son temps. Il ne s'est jamais déclaré humaniste que je sache, mais sa vie est un exemple pour les humanistes d'aujourd'hui. Bon, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je l'ai choisi pour faire plaisir aux gens de gauche, mettons. Il y en aurait d'autres qui feraient plus plaisir à des gens de droite, mais j'ai choisi de faire plaisir aux gens de gauche avec mon exemple qui vient. Et pour cela, je recommande la lecture des textes d'Albert Saint-Martin, ce typographe communiste, grande gueule, qui a réclamé pour le Québec au tout début du 20e siècle une longue série de réformes qui était scandaleuse à l'époque et que tous les Québécois et toutes les Québécoises considèrent aujourd'hui comme établies et précieuses, telles l'assurance santé, nationalisation de l'énergie, le bien-être social, la scolarité universelle et gratuite, la laïcité, etc. L'œuvre de Saint-Martin fut interrompue, comme celle d'Hypatie d'Alexandrie, par une foule de militants catholiques enragés qui le matraquèrent et lui fracturèrent le crâne. Foule lancée par les invectives haineuses en chair du monseigneur catholique de l'époque, Louis-Joseph Paul Bruchesi. Bon, je vous donne un troisième exemplaire daté notoire. Et cette fois-ci, pour faire plaisir aux femmes, je pense. Et il s'agit de la femme de lettres Eva Circé-Côté, qui a été pour moi la plus grande féministe de l'histoire du Québec. C'est pas à moi nécessairement seul à juger de ça, mais c'est mon opinion. Et c'est non seulement parce qu'elle a articulé très précocement et richement par écrit la voie d'émancipation des femmes, de qui elle exigeait un grand courage et un plus grand engagement social, et pas seulement une plus grande protection pour elle de la part des hommes. Au début du 20e siècle, Eva Circé-Côté s'est défoncée, sa vie durant, à articuler autant de magnifiques émancipations réalistes, sérieuses, avant-gardistes, généreuses, féministes et autres que féministes. Autant d'émancipations qu'une personne puisse imaginer pour le Québec. Entre autres, je rappelle qu'elle a créé la première bibliothèque publique au Québec, envers et contre l'Église catholique et malgré ses protestations et ses obstructions et sa censure étouffante et abrutissante.
Très intéressant, Claude. Merci beaucoup pour ces exemples. J'espère que ça va encourager certaines personnes à lire Québec athée. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en faire la lecture, vous pouvez le télécharger gratuitement, qui est une gracieuseté de l'auteur, merci Claude, à partir de la page principale de notre site. Un lien a été ajouté, juste à côté du balado, vous permettant de télécharger une version en format PDF. Alors, merci Claude d'avoir pris le temps de nous parler. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web, qui est assohum.org, ou encore notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Merci, et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.